Bienvenidos a este informativo de Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue en ce 1er janvier 2021 dans la première édition d'Accent du Monde, l'actualité du monde vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. L'occasion de vous souhaiter à tous des milliers de sourires sans masque, de nombreuses embrassades sans gestes barrières et des moments partagés en toute santé. L'occasion également de vous proposer autant que faire se peut un ADM, comme on dit entre nous, un Accent du Monde spécial et positif, avec nous des journalistes des rédactions brésiliennes, espagnoles, persanes et anglophones. Bonne année, Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne justement.
Feliz ano novo para todo mundo.
Alors, est-ce que le nouvel an se fait en maillot de bain sur Copacabana?
Ah, dès qu'il soit blanc, ça passe. Parce qu'au Brésil, on se met tous en blanc et si possible avec des nouveaux habits, surtout les sous-vêtements. Chaque couleur de culotte ou de slip veut exprimer un souhait pour la nouvelle année. Donc, le blanc, c'est la paix, le rouge, la passion et ainsi de suite. On est très superstitieux au Brésil. Hein. On doit manger des lentilles qui représentent l'argent, choisir une viande d'un animal qui avance bien vers l'avant, comme le poisson. Et ensuite, le jour de l'an au Brésil, c'est au bord de la mer, tout à fait, ou à défaut d'une rivière ou même la piscine. On cherche ce contact avec l'eau. Et à la plage, certains font des offrandes aux dieux de la mer, un héritage culturel des esclaves africains. Et au cas où, il vaut mieux ne pas briser cette tradition. Philippe, à minuit, on doit sauter 7 vagues et pour chacune, on fait un vœu pour la prochaine année.
Mais justement, on parlera de surf tout à l'heure. Bonne année Orlando Torricelli de la rédaction en espagnol.
Et Feliz Año Nuevo, c'est la formule consacrée, c'est pas très original, c'est vrai. Mais en ce qui concerne des traditions, c'est difficile de parler des cérémonies spécifiques qui soient vraiment communes à tout un ensemble de pays, séparés par la même langue, comme diraient certains. C'est un continent métis où chacun fait sa propre cuisine, qui est un mélange des traditions apportées par des migrants européens et des coutumes locales créoles. Au Chili, par exemple, pour les fêtes des fins d'année, on prépare une sorte des panettone, mais qui est une version beaucoup plus consistante. Hein. Et c'est très loin de la version originale, je ne sais pas pourquoi, mais à différence des très moelleux et panettone italiano, la version chilienne est assez ferme sous la dent. On pourrait la qualifier de panettone al dente. À part ça, peut-être un bain de minuit, mais cela n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il faut se rappeler que c'est l'été austral, donc la température de l'eau n'est pas vraiment un problème, sauf si vous avez un peu forcé sur les repas, naturellement.
Bonne année, Ali Reza Manabzadeh, de la rédaction Persane.
Bonne année, Sol et Moubarak. En fait, l'année iranienne commence le 21 mars, le premier jour du printemps. Mais la plupart des Iraniens fêtent aussi le premier jour de l'année chrétienne. Donc, on peut leur dire bonne année, Sol et Moubarak. Ce 21 mars, ils vont fêter le premier jour de l'an 1400.
Alison Heard de la rédaction en anglais, bonne année. Cette année est déjà bien particulière puisqu'après 47 ans, la Grande-Bretagne n'est plus européenne. Bye bye, Alison.
Happy New Year, Philippe, quand même.
Merci.
Et je signale, on n'a pas quitté le continent, hein. On a quitté l'Union européenne, c'est pas tout à fait. On n'a pas déménagé de l'Europe. C'est vrai, ceci dit, c'est un peu spécial. La plus grande des traditions au Royaume-Uni se trouve quand même en Écosse plutôt qu'en Angleterre, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle le Hogmanay. Et c'est toute la nuit du 31, on va passer de voisin en voisin en amenant de bonnes choses à manger, peut-être un petit peu de whisky. C'est vraiment pour porter la chance à toutes les maisons. Cette année, évidemment, ça s'est pas fait. Il y avait juste un musicien, un mec qui jouait de la cornemuse pour...
Pas très drôle.
Non, c'est pas très drôle.
En tout cas, l'année a été terrible, hein, bien évidemment, à plus d'un titre. Et pour en sortir une demi-heure durant cette sinistrose, revenons sur les belles informations de 2020 dans chacune de vos zones d'écoute. Commençons avec vous, Orlando Torricelli, de la rédaction donc en espagnol. L'année qui nous laissons derrière nous n'a pas apporté que des mauvaises nouvelles. Hein. Pour l'Amérique latine, la cuvée 2020 n'est pas entièrement mauvaise.
Bah, c'est vrai, Philippe, 2020, c'est pas à millésime à jeter aux orties. On pourrait même, sans trop fouiller, citer déjà deux bonnes nouvelles. La première, c'est le référendum du mois d'octobre au Chili. Les Chiliens ont voté le 25 octobre à une très forte majorité, presque 80%, en faveur d'une nouvelle constitution lors d'un référendum organisé un an après un véritable soulèvement populaire massif contre les inégalités sociales.
Alors pourquoi il était si important de changer la Constitution ?
Tout simplement parce que l'actuelle Constitution de 1980, c'est l'héritage par excellence de la dictature du général Pinochet. Et écoutons les propos d'Alfredo Joignant, professeur des sciences politiques à l'Université Diego Portales, au micro de Justine Fontaine.
Pour des gens de ma génération, c'est un moment de rêve. Ce sont 40 ans d'emprisonnement mental que l'on a vécu sous la Constitution 1980. C'est la première fois que l'on va se permettre de discuter à peu près tout de la future Assemblée constituante.
Il faut donc comprendre qu'avec ce référendum, les Chiliens ont vraiment décidé d'en finir avec le général Pinochet et de tourner la page.
Oui, tout à fait. Même si cela ne se fera pas tout de suite, comme l'a si bien compris Maria Elena, qui se félicite du résultat.
Je suis vraiment heureuse que le oui ait gagné. Peut-être que je ne verrai pas de changement aujourd'hui ni demain, mais je pense que mes enfants et mes petits-enfants, eux, en verront. Et c'est ce qui compte pour moi.
Voilà pour le Chili Orlando. Autre bonne nouvelle pour les latino-américains maintenant ?
Elle est beaucoup plus récente. Elle vient juste de tomber, pourrait-on dire. Ça s'est passé en Argentine cette semaine, non, mercredi dernier, où après plus de 12 heures d'intense débat, véritable marathon au Sénat, les congrès argentins ont adopté la loi légalisant l'avortement, un projet soutenu par le président Alberto Fernández. Rappelons que selon des chiffres officiels, plus de 3000 femmes sont mortes suite à un avortement clandestin entre 1983 et 2018. Et Amnesty International Argentine parle en moyenne des 450 000 avortements pratiqués clandestinement chaque année en Argentine. C'est sans doute une conquête très 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 importante pour les femmes, comme l'exprime Graciela, c'est une assistante sociale interviewée par notre correspondante Aude Villiers.
Je suis extrêmement émue, c'est le résultat d'une lutte ancestrale qui a mobilisé énormément de personnes et a dû faire face au jugement d'une partie de la société, surtout dans certaines provinces conservatrices. Je suis très heureuse, et en particulier pour les jeunes femmes.
C'est un pas très important vers un pays plus juste, comme l'explique Magdalena.
L'Argentine est un pays un peu plus juste à présent. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais c'est déjà un pas immense. L'avortement est un droit basique des femmes qui aurait dû être reconnu dans la toute première constitution de notre pays.
Pour l'instant, il faut rappeler que l'avortement n'est autorisé qu'à Cuba, Porto Rico, Guyane, Uruguay. Donc cette décision argentine peut être vraiment un exemple pour toute la région.
Et maintenant, au Brésil, Lucia Mouzel de la rédaction brésilienne, c'est l'égalité de genre qui a avancé en 2020. Dans le sport également, depuis le mois de mars, les footballeuses ont droit au même salaire que les hommes.
Et oui, au moins dès qu'elles défendent le maillot de la sélection brésilienne. Déjà en 2019, la Fédération brésilienne de foot avait décidé de recruter deux femmes entraîneuses pour l'équipe féminine, ce qui était une première déjà. Et depuis mars 2020, les joueuses touchent les mêmes primes lorsqu'elles représentent le pays aux compétitions internationales, comme les prochains Jeux olympiques par exemple. Désormais, sont donc également récompensées les stars du ballon rond comme Neymar, mais aussi Marta. Mais il faut noter que malheureusement, la Coupe du Monde reste à l'écart de cette décision sur les salaires. On sait aussi qu'au niveau des clubs de foot, et c'est le plus important finalement, les écarts salariaux restent énormes entre les hommes et les femmes.
Alors, les inégalités salariales dans le sport sont un problème dans le monde entier. Hein. Le Brésil ne fait pas exception.
Hein. Ouais, c'est sûr. Au niveau brésilien, cela signifiait plutôt qu'une femme touchait la moitié d'un joueur homme pour une journée d'entraînement. Et lorsque l'activité se passait à l'étranger, c'était encore pire car les hommes gagnaient en dollars, mais les femmes restaient dans la monnaie brésilienne qui maintenant vaut 5 fois moins que celle américaine. On disait tout à l'heure que la participation à la Coupe du Monde ne sera pas contemplée par cette mesure d'égalité. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est la FIFA, la Fédération internationale, qui gère les montants accordés aux joueurs. Et là, c'est très inégal selon les genres. On se rappelle d'ailleurs que cette question avait fait le scandale en France car les joueurs gagnaient 26 fois plus que les joueuses en cas de victoire à la fin de leur coupe respective.
26 fois plus. Ouais. Il faudra certainement beaucoup de temps avant qu'on soit à la parité. Je vous promettais du surf tout à l'heure. Une surfeuse brésilienne, Lucia, a réussi une prouesse en 2020. Elle a glissé sur la plus grosse vague de l'année, y compris si on la compare donc avec les hommes.
Hein. La brésilienne Maya Gabeira était très fière de son exploit. En 2018, elle a été la première surfeuse à figurer dans le Guinness Book des records. Et en 2020, d'abord, elle a battu son propre record mondial en réussissant à surfer cette vague de presque 22 mètres et demi dans la célèbre plage de Nazaré au Portugal. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle prenne tout simplement la plus grosse vague de toute la saison, celle des hommes comprises. Notre correspondante au Portugal l'a interviewée en septembre. Écoutons Maya Gabeira.
Eu acho que isso é muito, muito importante para as meninas que...
Pour elle, sa victoire est très importante pour le sport en général, pour les petites filles qui regardent et voient les femmes arriver au sommet, même quand elles sont en compétition contre les hommes. Pour Maya, cette prouesse a été même plus importante que son nouveau record pour lequel elle s'était très entraînée beaucoup à l'origine pour cette compétition.
Ouais, une vague de 22 mètres, j'ai calculé, ça fait grosso modo un immeuble de 8 étages.
Ah oui,
il faut vraiment avoir le cœur bien accroché et être très courageuse. Alireza Manavzadeh, vous avez choisi comme bonne nouvelle de l'année 2020, la renaissance du lac d'Urmia. Alors, il se trouve au nord-ouest de l'Iran. Son dessèchement avait commencé au milieu des années 90. Parlez-nous d'abord de ce lac avant de voir comment il a pu ressusciter. Alors, pourquoi avait-il desséché ?
Oui, c'est un lac fermé qui reçoit les eaux de 13 rivières. Il est considéré comme une zone humide d'importance internationale. Son assèchement a été considéré comme l'un des plus grands désastres écologique du monde depuis un quart de siècle. C'est à partir de 1995 qu'il a commencé à se réduire. Sa surface initiale était d'environ 5200 km² en août 2011 et il était passé à 2300 km². Et en 2013, il était seulement de 700 km². En fait, sa réduction a été causée aussi bien par le changement climatique que par une augmentation de la population suivie naturellement d'une exploitation abusive des ressources hydriques pour l'agriculture.
Alors le programme des Nations Unies pour l'environnement était très inquiet, bien évidemment, concernant le dessèchement de ce lac.
Parce que la région, c'est-à-dire le lac et ses alentours, est une incroyable biosphère, un endroit idéal pour les oiseaux migrateurs. Quant au lac lui-même, il héberge une végétation sous-marine très diversifiée et une espèce endémique d'Artémis. Ce sont de petits crustacés qui ne vivent que dans les eaux salées. Justement, c'est un lac très salé. On le considère comme le plus grand lac du Moyen-Orient et l'un des plus grands du monde. Il est situé entre deux grandes villes d'Iran, Tabriz et Urmia.
Parlons maintenant, Alireza, de la renaissance de ce lac. C'est en 2013 que le gouvernement iranien prend la mesure du problème et décide donc de travailler à ce que ce lac aille mieux finalement.
En fait, en 2013, le gouvernement iranien, les Nations Unies et la coopération japonaise se sont mis à travailler ensemble pour sauver le lac. Leurs efforts avaient pour but de développer une agriculture biologique moins gourmande en eau et à faire en sorte que s'effectue une prise de conscience collective des enjeux environnementaux. C'est ainsi que la consommation d'eau a considérablement diminué. Par exemple, les agriculteurs avaient l'habitude d'arroser les terres 12 heures par hectare. Ils ont commencé à arroser 6 heures. Ils ont divisé par 10 leur consommation d'engrais. Tout cela a permis au lac de se régénérer. Les tempêtes de sel et de poussière ont peu à peu diminué. Dans certains villages, se sont développées des plantations de crocus à safran et d'olives sauvages qui demandent peu d'eau. Ainsi, l'intérêt de la population pour l'environnement a augmenté.
Alors maintenant, quel est le résultat ? Quelle est la surface de ce lac ?
En mars 2020, il était passé à environ 3000 km². C'est quand même prometteur pour l'avenir.
Voilà, donc une bonne nouvelle en 2020 et pour les années qui vont venir, espérons-le. Alison Heard, vous avez souhaité vous revenir sur finalement une mauvaise nouvelle. C'est le Covid, c'est le premier confinement au mois de mars. Et vous avez trouvé du positif là-dedans.
Oui.
Dites-nous.
Oui, c'est bizarre peut-être, mais moi j'aime bien l'idée que la nature humaine ne retient pas que le mauvais côté des choses, et même si c'était pas évident, évidemment il y a eu des morts, évidemment il y a eu une grande souffrance, les hôpitaux submergés, mais à côté de tout ça, ceux qui restaient à Paris, c'était mon cas, on a vu Paris comme on n'a jamais vu Paris, propre. Sous un ciel bleu avec pas de pollution aérienne, pas d'avion, pas de voiture ou très peu dans la rue. C'était un moment assez incroyable et bien sûr tous les soirs à 20h, un véritable moment de vivre ensemble où ils applaudissaient les personnels soignants. Et c'était filmé par un couple, notamment un réalisateur qui s'appelle Louis Villers et sa copine australienne-chinoise. Ils ont commencé à filmer de l'intérieur de leur maison, de leur appartement, la vie intérieure, comment ils vivaient tout ça, les petits moments, les hauts et les bas, ce qu'ils voyaient par le balcon, vraiment en temps réel, parce qu'ils filmaient comme ça. Et en fin de semaine, ils faisaient un documentaire de 26 minutes qui était diffusé sur Canal+.
Qui s'appelait Fenêtre.
Et qui s'appelle Fenêtre. Ouais. Et qu'on peut encore voir. C'est très chouette. Alors, c'est pas évident quand même de filmer à partir de son balcon. Et pourtant, Louis Villers, il a trouvé que, voilà, il a réussi.
Everything was so new for us. What we could see in the street was completely new.
Donc, il a eu de l'imagination, ouais. Laquelle ?
Voilà, dans un premier temps, il y avait de la matière parce que tout était vraiment nouveau, le confinement même, les magasins fermés, les premiers policiers, par exemple, qui fumaient, qui donnaient des amendes aux gens qui n'avaient pas leur certificat. Donc, il y avait beaucoup de matière. Et au fur et à mesure, il fallait trouver autre chose. Donc, il est allé faire son jogging à Montmartre complètement vide, comme on peut absolument jamais voir. C'est dans le documentaire, c'est passionnant. Il a commencé à demander à ses amis de se filmer aussi et de voilà. Donc il a eu beaucoup de matière finalement.
Alors vous avez parlé d'une amie chinoise. Quel oui. regard a-t-elle porté sur les Français durant cette période?
Oui, alors Jiahua Liu était frappée par la rapidité avec laquelle les Français, notamment les Parisiens, ont changé de comportement dès le confinement.
Well, I think the psychological change was quite immediate. And for me, I think that will be the biggest change.
Que dit-elle?
Donc, elle dit, ce changement psychologique était quasiment immédiat. On avait le sentiment que d'être à côté de quelqu'un, tout d'un coup, était devenu un tabou, que tu voulais même pas frôler quelqu'un qui ne portait pas le masque. Alors que quelques jours auparavant, les gens étaient en train de s'embrasser, étaient nonchalants. Toute autre ambiance, quoi.
Ouais, les gens s'embrassaient, et oui. Puis là, fini les bises. Alors ouais, c'est typiquement français, ça, les
ouais, sons. Oui, je dis youpi, moi, hein. Je ah dis bon youpi, parce que autant on peut regretter que la pollution soit revenue, les bouchons soient revenus, mais le non-retour de la bise, moi, je trouve ça très bien. Parce que on se sent bête quand on sait pas quel jour embrasser. Est-ce que c'est 2, 3, 4 fois? C'est toujours compliqué. Et après, cette obligation d'embrasser les gens qu'on connaît à peine, c'est un petit peu pesant. Et moi, je suis pas seul. Je connais aussi des Français qui sont.
On se connaît tous dans ce studio et effectivement, on ne s'est pas fait la bise tout à l'heure avant de rentrer dans le studio 41 de Radio France Internationale. Ce qui nous attend en 2021, hors Covid, même si forcément il alimentera les incertitudes sur l'organisation d'un scrutin pour un virage politique, une construction majeure, je sais pas, barrage, reforestation, l'organisation des Jeux Olympiques qui seront inédits. Alors on va passer tout cela en revue dans vos zones d'écoute là encore. Il y a encore quelques jours, la tension entre l'Iran et les États-Unis s'est de nouveau accentuée dans le Golfe Persique. Alireza Manavzadeh de la rédaction Persane, vous suivez cela de très près. À quoi peut-on s'attendre?
Oui, c'est à l'approche de l'anniversaire de l'assassinat du général Qassem Soleimani qu'on assiste à une montée de tensions entre les deux pays. Comme vous le savez, il a été assassiné le 3 janvier 2020 par un drone américain en Irak. Le guide suprême, très touché par cet assassinat, a promis une vengeance qui se fera, d'après lui, au bon moment et au bon endroit. Déjà, le 20 décembre, les Américains ont accusé l'Iran d'être impliqué dans une attaque près de leur ambassade en Irak. Mais il semble que ce soit une accusation infondée.
Alireza, quelle a été la réaction de l'Iran après cela ?
Avec cette montée de tension, on voit que les Iraniens évitent tout affrontement avec les États-Unis et misent beaucoup sur l'administration Biden. Saïd Khatibzadeh, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que l'Iran a envoyé des messages aux gouvernement américain et à ses amis dans la région pour faire part de son espoir que le président des États-Unis ne se lance pas dans une nouvelle provocation pendant les derniers jours de sa présence à la Maison-Blanche.
Alors, cette politique d'apaisement, elle est à mettre au crédit de l'actuel président en Iran.
Tout à fait. On se souvient que le 8 novembre dernier, après l'annonce de la victoire du candidat démocrate, il a demandé de saisir cette occasion pour corriger les erreurs passées. Il a invité la future administration américaine à revenir sur la voie de l'adhésion aux engagements internationaux et au respect du droit international.
On l'écoute. Alors, que dit-il?
Il dit, nous espérons que le prochain gouvernement des États-Unis condamnera dès le début la politique de Trump vis-à-vis de l'Iran.
Et si en mai prochain, les conservateurs remportent la présidentielle qui aura lieu en Iran?
C'est vrai que depuis toujours, les conservateurs ont été hostiles à tout accord avec les États-Unis. Mais la situation économique catastrophique du pays, créé par le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en mai 2018 et le rétablissement des sanctions américaines, est tel qu'ils ne pourront pas refuser les propositions moins belliqueuses de Biden.
Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale. Orlando Torricelli, cette nouvelle année s'annonce sous quels auspices en Amérique latine, vous qui appartenez à la rédaction en espagnol?
Ça doute beaucoup de choses. D'abord, un calendrier électoral avec des rendez-vous très importants à l'Équateur, Pérou, au Chili. Mais je voudrais m'arrêter sur une mesure qui vient juste d'entrer en vigueur, précisément aujourd'hui, les 1er janvier 2021.
À laquelle?
À Cuba, c'est d'aujourd'hui, les 1er janvier 2021, qui rentrent en vigueur les processus de fusion de deux monnaies locales, les pesos convertibles, CUC, aligné artificiellement sur le dollar, qui a commencé à être retiré de la circulation et devrait disparaître dans 6 mois, laissant la place qui est au peso cubain, CUP, qui vaut 24 fois moins.
Alors quel est le but de cette manœuvre, si je puis dire?
Tout d'abord, on peut pas dire que ce soit une surprise, parce que cette décision était déjà dans les tuyaux depuis quelques années. Les autorités étaient persuadées qu'il fallait mettre fin à cette cohabitation entre des monnaies en vigueur depuis 26 ans, pour rendre l'économie locale plus lisible, attractive pour les investisseurs étrangers. La conjoncture économique très difficile aujourd'hui, il faut se rappeler le tourisme, le Brexit, etc., aurait poussé à franchir les pas. Les problèmes, c'est l'impact sur la monnaie locale, le peso cubano, qui, comme les autorités même le reconnaissent, fatalement perdra sa valeur. Marino Trujillo, membre du bureau politique, est chargé de la mise en œuvre de la réforme économique.
No va a ser posible no devaluar.
Il sera impossible de ne pas dévaluer le peso cubain. Il n'y a aucun moyen d'éviter que la dévaluation provoque une hausse des prix. C'est impossible. Il y aura donc de l'inflation.
C'est des réalités que le cubain et même semble déjà avoir intégré, comme Miguel Pérez à La Havane.
La majorité des choses, tu peux les acheter en CUC, parce qu'en monnaie nationale, il y a beaucoup de choses qui ne se vendent pas, alors que c'est notre monnaie nationale cubaine. Le peso cubain a perdu beaucoup de sa valeur et tu ne peux pas tout acheter avec cette monnaie. Par exemple, une serviette, tu l'achètes en CUC, du dentifrice, tu l'achètes en CUC. Et c'est pour ça que selon moi, le peso cubain ne vaut vraiment pas grand-chose.
Bon, cela dit, tout cela pose pas mal de questions.
Oui, tout à fait. C'est pour cela que le gouvernement a déjà annoncé qu'il a renoncé à la forte hausse des tarifs d'électricité prévue initialement, ajoutant qu'elle sera moins élevée après avoir pris en compte les mécontentements que cela risquait de déclencher. Parmi les mesures prévues figure une augmentation sensible des salaires et des retraites. Mais en parallèle, il y a une augmentation aussi sensible, pour ne pas dire douloureuse, des prix des services comme l'électricité. Une mesure qui a entraîné un mouvement de contestation qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux et dans la presse nationale. Donc c'est vrai qu'ici bien aujourd'hui, les Cubains ne font pas un saut dans l'inconnu, cela lui ressemble fortement.
Orlando Torricelli, la rédaction en espagnol de RFI. Au Brésil maintenant, la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'accentuer une situation économique politique, sociale déjà très dure, hein, et cela depuis plusieurs années, Lucia Mouzel. Il y a aussi de bonnes choses, un nombre record de femmes et de noirs élus lors des dernières élections municipales.
Voilà, plus de 650 femmes prennent ces fonctions ce 1er janvier partout au Brésil, ce qui représente 12% des élus. Cela reste très peu, c'est vrai, le système politique brésilien étant très inégalitaire entre les genres, mais c'est une avancée importante. Parmi ces élus femmes, 33 en sont noires en plus, ce qui manque également un progrès majeur, car le Brésil a fait écho à ce combat mondial féministe et antiraciste très fort en 2020. On a énormément parlé de ces problèmes de société aussi importants mais tellement négligés au Brésil. Ce débat sur le racisme structurel brésilien n'avait jamais eu lieu comme il l'a eu en 2020. Et donc c'est historique, une étape cruciale pour une société plus juste au Brésil, et les urnes ont montré que la population commence enfin à être plus sensible à ces questions.
Plus de femmes, donc plus de noirs en politique au Brésil. Dans le contexte actuel du pays, avec Jair Bolsonaro au pouvoir, c'est surprenant quand même, non ?
Ah oui, c'est vrai. Et je vous avoue, Philippe, que pour cette émission, il était difficile pour moi de penser à une bonne chose qui s'était passée au Brésil en 2020 ou même pour l'avenir, hein, dans le contexte actuel pour vous parler ici. Vous savez, depuis quelques années, la société brésilienne est très polarisée, radicalement divisée, mais malgré la poussée de l'extrême droite là-bas, les organisations progressistes de gauche sont restées mobilisées. Il y a en effet des progrès notables, pas que pour les femmes et les noirs, mais aussi pour les personnes LGBT. Et dans ce sens, je rejoins ce que nous a dit le grand écrivain brésilien Inácio Loyola Brandão il y a 2 semaines dans une interview.
C'est une chose maluque, c'est irréel que nous estamos vivendo. Irréel.
Ben, il dit que c'est une chose de fou ce qu'on vit au Brésil maintenant, à tel point que parfois on a l'impression de ne pas vivre quelque chose de vraiment réel. Et il estime que le Brésil souffre beaucoup ces derniers temps. Néanmoins, oui, il y a quelques avancées comme celles constatées aux élections municipales qui nous donnent du souffle pour continuer et penser que tout n'est pas perdu.
Lucia, la preuve que le chemin reste long à parcourir malgré tout, c'est que plusieurs de ces élus femmes, et surtout les noirs, les femmes noires, ont été la cible d'attaques racistes. Ça s'est passé où d'ailleurs?
Oui, c'est regrettable. On a vu ça un peu partout, notamment dans les régions sud et sud-est du Brésil. C'est le cas par exemple à Curitiba, la capitale de l'état du Paraná. C'est là-bas que la conseillère municipale Carole da Torre, femme noire qui vient d'être élue, a reçu même une menace de mort. Sur les réseaux sociaux, elle a dit que rapidement l'enquête a montré que les Noirs ont été la cible d'attaques coordonnées au nord et au sud du Brésil. Je vous propose de l'écouter.
Mas eu quero dizer que eles não vão nos calar. Eu não vou sair chorando, eu não vou sair.
Que dit Carole D'Artora?
Je la traduis littéralement. Je veux dire qu'on ne va pas on ne va pas se taire. Je ne vais pas commencer à pleurer ici ni à crier parce qu'on m'a comparé à un singe. C'est pas la première fois dans ma vie et c'est quelque chose de courante dans la vie des Noirs. Et c'est pas maintenant que je vais baisser ma tête. Au contraire, ce 1er janvier, je rentrerai fièrement à la Chambre municipale pour continuer de lutter contre le racisme au Brésil plus que jamais.
Et bien évidemment, la rédaction brésilienne de RFI avec vous, Lucia Mouzel, suit tout cela de très près. Venons-en à l'Eurovision, le concours européen de la chanson qui n'a pas eu lieu en 2020 à cause du Covid, là encore. Mais l'organisation insiste sur le fait que l'événement aura lieu cette année, en 2021. Pour vous, Alison Hurd, c'est une très bonne nouvelle?
Oui, parce que j'adore la musique et comme beaucoup de, des centaines de millions de gens qui regardent cet événement tous les ans, il y a ce mélange vraiment sympa de musique, de chanson, mais aussi de langues différentes, de jeunesse, de la mixité sociale, sexuelle. Et surtout, c'est vraiment des spectacles live. Et c'est ça qui nous manque depuis le virus. Alors l'Union européenne de télévision et radio a annoncé qu'elle se tiendrait cette année le 18, le 20 et le 22 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et le slogan sera « Open up, ouvrez-vous ». 41 pays devraient participer.
Et on verra bien sous quel format. Le Royaume-Uni ne fait donc plus partie de l'Union européenne. Est-ce qu'il va participer à l'Eurovision?
Oui, c'est une grande question. Le Royaume-Uni fait partie des grands 5, c'est-à-dire ces 5 pays européens, qui amènent pas mal d'argent et qui, en contrepartie, passent automatiquement en finale. Alors avec les coupes budgétaires et tout ça, on peut imaginer peut-être qu'ils n'auront plus envie de payer. Aussi, est-ce qu'ils auraient vraiment l'âme pour le faire? C'est pas sûr. En tout cas, la BBC prévoit une opération réduite.
On termine rapidement en musique.
Oui, quand même, parce qu'on parle de musique. Et sur une note un petit peu nostalgique peut-être, avec cette chanson Love Shine a Light, c'était la chanson qui avait fait gagner le Royaume-Uni en 1997. C'est une vraie chanson de fraternité et espoir entre les gens.
Et on va terminer avec cela. Merci à vous quatre pour ce numéro d'Action du Monde très intéressant, en mode édition spéciale réalisée par Anthony Bellard sur Radio France Internationale.